Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Hier, la stratégie de soutien à l'Ukraine était au cœur des débats parlementaires, débats qui résonnent directement en Ukraine, où la question de l'aide militaire de l'Occident est centrale. C'est auprès de ces populations, sur le front mais aussi à l'arrière, que s'est rendu notre invité pour évaluer leurs sentiments dans la guerre, une guerre qui dure maintenant depuis plus de 2 ans. Bonjour Anne Niva.
Bonjour Guillaume Erner.
Vous êtes docteur en sciences politiques, reporter de guerre, spécialiste des questions internationales, ancienne correspondante à Moscou. Vous parcourez l'Ukraine et la Russie.
Depuis longtemps, oui.
Depuis longtemps, et l'on vous doit aujourd'hui ce livre, La haine et le déni, avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre, aux éditions Flammarion. Anne Niva, peut-être une remarque sur ce débat parlementaire hier.
Ce débat, il est sain, il est toujours sain bien sûr de débattre, mais il est tardif, selon moi il est tout à fait tardif, et puis il est surtout, il répond à des exigences politiques, politiciennes disons, qui appartiennent à la France. Ça ne va pas changer, si vous voulez, quoi que ce soit en Ukraine ni sur le terrain. Or moi c'est le terrain qui m'intéresse.
Et justement, sur le terrain, comment ce genre de débat paraît-il, comment l'aide occidentale apparaît lorsqu'on est en Ukraine sur le front?
Alors, en Ukraine, aujourd'hui, les débats en France n'intéressent pas du tout l'Ukrainien moyen. En revanche, ce qui intéresse l'Ukrainien, c'est de savoir, effectivement, mais ça n'est pas nouveau et ça n'est pas dû au débat d'hier, ce qui intéresse l'Ukrainien, c'est de savoir si la France va continuer à donner, à livrer des armes à l'Ukraine et même en livrer plus. C'est tout ce qui intéresse.
Oui, parce que vous racontez, Anne Niva, dans ce livre, La haine et le déni, qu'il y a un sentiment d'abandon.
Oui. Là, vous parlez du côté ukrainien, parce que, comme vous savez, j'ai été, et c'est rare, des deux côtés. Et
donc, là, je parle évidemment des Ukrainiens, et notamment d'Oleg, dont vous rapportez les propos.
Exactement. Mais ce que je dois dire, c'est que j'ai été quasiment schizophrène pour écrire ce livre. Ça a été très difficile d'être des deux côtés. Mais bon, là, puisqu'on parle du côté ukrainien et qu'on parle d'Oleg, Oleg était, parce que malheureusement, depuis l'écriture du livre, il est mort. Il est mort parce qu'il a été touché, il a sauté sur une mine. Un officier de renseignement ukrainien. J'avais des discussions avec lui très intéressantes, justement, sur ce qu'il pensait de nous. Et il était très, très dur. Il me prenait à partie en disant « Vous nous avez abandonnés ». Et il parlait non pas de cette nouvelle guerre, mais de avant, puisqu'il parlait, lui, il s'était porté volontaire pour aller combattre déjà dans le Donbass, où il avait perdu la moitié de sa jambe. Il avait une prothèse, il continuait à être combattant, mais il disait vous étiez garant de notre sécurité, vous la France. Alors il parlait d'un mémorandum qui s'appelle le mémorandum de Budapest, qui a été signé en 1994, je le dis brièvement. En 94, on est juste quelques années après la dislocation de l'URSS, et là la grande question c'était, est-ce que l'Ukraine doit rendre ses armes nucléaires à la Russie ou pas? Elle les a rendues en échange, justement, et c'est la signature de ce mémorandum, de garant de sa sécurité. Qui a signé ce mémorandum? Bien évidemment, la Russie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, et puis ensuite la France et la Chine. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a pas échappé que les garants n'ont rien garanti du tout aux yeux des Ukrainiens. Et c'est ce qu'il me disait. Et donc j'ai senti, dès que je suis retournée en Ukraine au début de cette guerre, en avril-mai 22, qu'il y avait un fort ressentiment par rapport à ce « lâchage », entre guillemets.
Donc un lâchage côté ukrainien, côté russe. Que vous disent les Russes, Anne Niva?
Alors, les Russes sont partagés, c'est-à-dire, d'abord, c'est très difficile de travailler côté russe. C'est plus difficile que côté ukrainien, parce qu'il y a une telle pénalisation de toute expression publique de gens qui sont contre la guerre, que bien sûr, et nous, journalistes, nous sommes dépendants de la parole de l'autre, donc si je vais en Russie et que je peux parler à personne, ça va pas du tout, donc... c'est plus long de réussir à trouver des gens à qui parler, et puis il faut prendre des pincettes, et puis surtout l'expression « il faut que je change les noms », etc., que tout reste tout à fait anonyme, pour protéger mes sources. Donc en Russie, il y a des gens à qui j'ai parlé qui sont pro-guerre, bien sûr, mais il y en a qui sont anti-guerre. Et même les pro-guerre, on pourrait penser qu'ils sont, disons, satisfaits, entre guillemets, de ce qui se passe, mais pas du tout. En fait, au fil du temps, ils sont de plus en plus en colère contre Vladimir Poutine, contre leur propre régime. Pourquoi? Mais parce qu'ils se rendent bien compte que la guerre n'est pas gagnée. Et beaucoup m'ont dit qu'en fait, ils en voulaient à Vladimir Poutine parce que, selon eux, il n'y allait pas assez fort. Quant à ceux qui sont anti-guerre et anti-Poutine...
Oui, puisque vous parlez aussi d'eux dans
bien,
la...
Oui, bien évidemment. Eux se cachent, si je puis dire, dissimulent pratiquement leur point de vue et ne sont ne peuvent l'exprimer que, comme on l'a vu récemment, lors de l'enterrement de Navalny, de l'opposant Navalny, ou alors au moment, vous savez, où il y avait eu ces queues pour aller enregistrer le candidat à la présidentielle, Nadiejdine, qui n'a pas été enregistré, justement. Mais ça, c'était comme des expressions, justement, de ce côté anti-guerre, mais des expressions, j'allais dire, quasiment silencieuses.
Anne Niva, vous connaissez bien la Russie et ses guerres. Vous connaissez aussi la Tchétchénie, puisque
oui,
vous avez
sûr.
Été reporter là-bas. Vous
C'est ma première guerre.
Vous êtes retourné, justement. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'il y a comme point commun entre cette guerre de Tchétchénie et la guerre d'Ukraine.
Vous avez tout à fait raison de mettre souligner cela, parce que bon, je n'ai pas cessé de retourner en Tchétchénie depuis que j'y suis allé lors de cette guerre qui a opposé les combattants indépendantistes tchétchènes à la Russie. C'était donc pour moi en 1999-2000, donc c'est il y a longtemps, c'est il y a plus de 20 ans. Et là, j'y suis effectivement retournée pour essayer de comprendre comment les Tchétchènes saisissaient ce qui se passait en Ukraine. Parce que figurez-vous qu'en Ukraine, aujourd'hui, nous avons des combattants tchétchènes qui combattent côté russe, c'est-à-dire anti-ukrainien, mais nous avons aussi des combattants tchétchènes qui combattent de l'autre côté. Ils sont moins nombreux, mais ils existent également. Bon, quand j'étais en Russie, donc en Tchétchénie là récemment, j'ai vu ceux qui sont pro-russe, bien sûr. Mais en Tchétchénie, dans la population civile, vous avez énormément de gens qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe en Ukraine, qui sont contre, en fait, mais ils ne peuvent pas le dire, eux non plus, parce que, justement, la Tchétchénie est un régime complètement dictatorial. Beaucoup disent c'est la Russie en miniature et en pire. Et donc, parce qu'ils se disent, nous, les Tchétchènes, nous avons été, en fait, les premiers à subir ce que subissent maintenant les Ukrainiens. Pourquoi, me disait-il à moi, bien évidemment, parce qu'une fois de plus, quand on est journaliste, on est pris à partie, et c'est bien normal. Pourquoi vous soutenez les Ukrainiens aujourd'hui et vous ne nous avez pas soutenus quand nous avions, nous, notre guerre, qui était la même guerre, disent-ils, contre l'oppresseur russe il y a 20 ans? Donc c'est difficile de répondre à ces questions. En tout cas, on peut que constater qu'effectivement, ils disent qu'il y a beaucoup plus d'aide à l'Ukraine qu'il n'y en a eu à la Tchétchénie, mais à cela, il faut quand même, je leur ai rétorqué, que la Tchétchénie faisait, à l'époque, et fait toujours partie intégrante de la Fédération de Russie. Or, l'Ukraine est un État indépendant. C'est autre chose. C'est pour ça que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a une autre dimension.
Anne Niva, vous racontez aussi dans La haine et le déni la manière dont les différentes régions de la Fédération de Russie souffrent de cette guerre. Ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous donner justement quelques indications à ce sujet?
Bien sûr, bien sûr. La Fédération est un pays non seulement immense du point de vue territorial, ça reste le plus grand pays du monde, 11 fuseaux horaires, mais en même temps c'est un pays multinational, c'est-à-dire que tout le monde possède le passeport de la Fédération de Russie, il est citoyen de la Fédération de Russie, mais il n'y a pas que des Russes en Fédération de Russie. Il y a également d'autres minorités, comme par exemple les Tatars, comme par exemple les Daghestanais, comme par exemple justement les Tchétchènes, les Bouriates en Bouriatie, etc. Et en fait, ce qui se passe avec cette guerre, c'est quelque chose que j'avais jamais vu précédemment et qui provoquerait, hein, je le dis au conditionnel, mais c'est quelque chose dont Poutine a véritablement peur, un affaiblissement de l'unité de la Fédération de Russie. C'est que qui part combattre aujourd'hui en Ukraine? Vladimir Poutine a déclaré une mobilisation générale le 21 septembre 2022. Et depuis, il n'a pas déclaré de seconde vague de mobilisation. Mais c'est parce que qui va combattre? En majorité, ce sont des Russes, des citoyens de la Fédération de Russie, non ethniquement russes. C'est-à-dire justement des Bouriates, des Daghestanais, etc., etc. Pourquoi eux? Mais parce que eux ont davantage de facilité, estime-t-il, et d'envie, de désir à s'engager dans l'armée russe qui les paye très très bien. Parce que pour eux, s'engager dans l'armée russe, c'est un véritable ascenseur social dans ces régions qui sont des régions pauvres, plutôt que des Russes urbains de Moscou, de Saint-Pétersbourg, etc. Donc au final, cette guerre est principalement menée par des non-russes. Et c'est ça que les femmes, les épouses de soldats au Daghestan ou les mères ont dit dans la rue, violemment, et ça c'est nouveau, Guillaume, face à des représentants du pouvoir, des ministères du pouvoir de force, elles ont dit « c'est pas notre guerre, c'est pas notre guerre ». Et ça fait très peur à Vladimir Poutine.
Anne Niva, aujourd'hui, certains parlent d'un front gelé, d'autres pensent que cela ne peut pas arriver. Votre regard, vous qui avez arpenté tous ces lieux?
Ah non, le front est totalement gelé et absolument tous les militaires le disent. Tous les commentateurs sont unanimes là-dessus. Le front est gelé depuis pratiquement 2 ans. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est, disons, à la marge que ça modifie les choses. Et donc, on est dans une guerre d'attrition, une guerre qui va durer. Et c'est bien ça le problème, parce qu'on a l'impression, même si c'est difficile côté russe, mais c'est l'impression que veulent donner les Russes, que ça ne les dérange pas d'être dans cette bataille gelée, et qu'ils ont le temps. Or, ça les dérange, bien sûr. Et côté ukrainien, bien évidemment, ça les dérange. Et on a, évidemment, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui ne cesse de dire qu'il a besoin de ses armes, et il a raison de le dire. Et qui continue, ses troupes continuent à harceler avec des drones les forces russes, notamment en Crimée.
Pour comprendre cette guerre des deux côtés, parce que effectivement, c'est l'une des singularités de votre regard, Anniva, la haine et le déni avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre aux éditions Flammarion.
Et surtout pour faire surgir l'humain, et pas uniquement la géopolitique et les analyses et les supputations purement militaires. L'humain.
Merci d'avoir été avec nous.
Merci
ce matin.
Beaucoup.